Je voudrais poser la question des mots de la science, de son jargon, et de se poser la question de savoir pourquoi elle emploie ces mots rébarbatifs qui, à première vue, je dis bien à première vue, semblent être le principal obstacle à sa compréhension. Donc, question, la science est-elle condamnée au jargon? Je vous annonce tout de suite ma réponse, c'est oui, mais. Alors, le oui, c'est peut-être la partie la plus facile à énoncer, et c'est le mais qui va être intéressant. Le oui, il est d'une certaine façon relativement trivial, dans la mesure où il faut bien reconnaître que la science est une activité spécialisée, je ne parle même pas de ses disciplines particulières, mais de la science en tant que telle, et que, comme toute activité humaine particulière, elle est obligée de se forger son vocabulaire. Et je trouve qu'il y a quelque injustice de ce côté-là à reprocher à la science ce qu'on admet au moins implicitement pour n'importe quel autre type d'activité professionnelle. Si vous rentrez dans un atelier, quel qu'il soit, soit de métallurgiste, que vous alliez sur un bateau, que vous pénétriez même dans l'arrière-boutique du boulanger, vous entendrez un nombre considérable de mots que vous ne connaîtrez pas et que vous ne comprendrez pas. Donc à l'intérieur d'un cadre professionnel particulier, quand les gens sont confrontés à des tâches de production spécifiques, qu'il s'agisse de fabriquer du pain, de construire des bateaux ou de produire du savoir scientifique, la spécialisation même oblige à créer des vocables particuliers pour désigner des réalités particulières qui n'ont de sens que dans ces pratiques. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, je crois que le reproche fait globalement à la science d'utiliser un vocabulaire particulier est un reproche injuste parce qu'elle n'est de ce point de vue-là pas différente des autres activités humaines. Autre chose maintenant, si l'on rentre dans les détails et qu'on se demande comment elle choisit ses vocables, si elle le fait bien, si elle le fait mal, si elle ne pourrait pas le faire autrement. Et là, effectivement, c'est le « mais » ou « mais » qui commence et qui devient, je crois, plus intéressant. Donc, le plus simple, c'est peut-être de dresser à très très grands traits quelques grandes étapes du rapport que la science a entretenu avec la production de son vocabulaire propre, parce que il s'est passé par des phases différentes. Première phase, qui correspond grosso modo au 17e et au 18e. Alors, petite parenthèse, pourquoi je commence au 17e? Parce que il me semble que s'il est question ici des mots de la science, le premier sur lequel il faut préciser les choses, c'est le mot science lui-même. Le mot science est un mot par essence extrêmement vaste, polysémique, qui a toute une série d'acceptions incroyablement diverses et qui prête à malentendu. L'un d'entre eux qui est notable, par exemple, quand on invoque à l'appui des débats éthiques d'aujourd'hui la fameuse phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », phrase extrêmement noble, mais qui ne veut pas dire ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. Chez Rabelais, le mot « science » est un mot tout à fait général qui désigne n'importe quel type de connaissance, et pas spécifiquement la connaissance que nous allons aujourd'hui appeler scientifique. Ce Rabelais dit « connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme », ce qui n'est pas moins vrai pour autant. Mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Alors, si l'on veut ne pas tomber victime de ce genre de malentendu, il convient, me semble-t-il, de décider, ex abrupto, d'utiliser le mot « science » dans l'acception qu'il revêt peu ou prou aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à une activité qui devient semblable à ce qu'elle est aujourd'hui, et ça ne commence guère avant le début du XVIIe siècle. Alors, bien sûr, avant le début du XVIIe siècle, il y a production de savoir, et de savoir que nous allons aujourd'hui reconnaître comme participants de ce que nous appelons science. Mais ça, c'est une réinterprétation moderne. Quand les Babyloniens font de l'astronomie ou les Grecs font des mathématiques, ils produisent des savoirs qui sont aujourd'hui récupérés dans notre astronomie ou dans notre mathématique, mais dans le contexte de ces sociétés-là à leur époque, leur rôle, leur signification, leurs enjeux sont extrêmement différents. Chez les Babyloniens, l'astronomie a surtout une portée divinatoire. Même les Grecs, la mathématique a un contenu beaucoup plus philosophique que celui d'une connaissance positive, utile. La mathématique grecque, dans tous ses développements, ne sert à rien. À la limite dans l'Alexandrie tardive, on va un peu utiliser chez Archimède, par exemple, à des fins pratiques quelques théorèmes, mais c'est bien tout. Donc, les mathématiques, par exemple, comme vous les trouvez chez Platon, c'est une démarche de pensée qui a pour vertu, finalement, d'éclairer la pensée sur elle-même et pas du tout de permettre de faire des calculs pour faire de l'architecture ou des bateaux. Donc, c'est très différent. Ça n'est effectivement pas ce qu'on pensait au 19e siècle, où justement on avait une vision de la science comme beaucoup plus unifiée et permanente, et où ce qui était vrai au 19e, à partir du 19e, il est encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire le lien entre des savoirs théoriques fondamentaux d'une part et des applications concrètes, pratiques d'autre part, laissait croire qu'il en avait toujours été ainsi. Au début du 19e siècle, c'est là que les choses commencent à changer, et que l'activité de gens comme Galilée, Descartes, devient une activité que nous reconnaissons aujourd'hui. Si je lis Galilée, je me dis, tiens, c'est un collègue, je comprends ce qu'il fait. Les gens avant lui, y compris d'ailleurs quelqu'un de presque contemporain, comme Kepler, je ne comprends pas grand-chose. Il faut vraiment des clés de décryptage extrêmement précises. Ce n'est pas un physicien au sens moderne du terme, c'est quelqu'un chez qui on va trouver des savoirs que l'on peut considérer comme des savoirs de l'infini, mais c'est beaucoup plus compliqué. Bref, je vais refermer ma parenthèse en disant que je me place au début du 17e, où là, effectivement, s'engage quelque chose qu'on peut appeler la science au sens moderne. Alors, comment ces gens manipulent la langue? Ils manipulent la langue de tous les jours. À ce moment, une langue un peu savante, un peu abstraite, j'entends bien, c'est pas la langue des marchands ou des poissonnières, mais il n'y a pas encore, ben oui, c'est normal, puisque la science n'existe pas encore, de vocables très spécifiques. Quand vous regardez, puisque je prenais l'exemple de Galilée, quand vous regardez ces textes, il est tout à fait notable qu'il y a très peu, je ne dis pas du tout, mais très peu d'innovations terminologiques. Il crée très peu de mots, mais utilise les mots de la langue courante dans une acception qui devient assez spécifique et assez particulière, ou va récupérer des mots du latin, mais qui est souvent en italien. Et même quand il écrit en italien, il va récupérer un ou deux mots en latin, auxquels il donne un sens tout à fait spécifique. Il n'empêche que, quand vous lisez Galilée, quand vous n'êtes pas quand vous lisez Galilée, ne bute pas sur des problèmes de vocabulaire, ou s'ils y butent, c'est de façon inversée par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'il y a des mots qui appartiennent à la langue courante, peut-être à un niveau de langue un peu sophistiqué, mais qui appartiennent à la langue commune, disons, courante, qui appartiennent à la langue commune, et ce qui peut gêner, c'est justement que ces mots prennent un sens plus particulier et plus spécifique que celui qu'ils ont dans la langue commune. Donc on ne va pas être étonné par les mots, mais on sera peut-être étonné par le sens implicite qu'ils prennent. C'est comme ça que ça va se passer, pour l'essentiel, au XVIIe et encore au XVIIIe siècle. Et à l'appui de ce que je dis, parce que j'ai tenté de concrétiser un peu mon propos en vous donnant des exemples, pensez au vocabulaire de la mécanique, qui se crée à partir de Galilée et qui va s'installer véritablement, devenir science, y compris mathématisée au plein sens du terme, avec Newton, donc fin 17e. Quels sont les mots clés de la mécanique newtonienne? C'est les mots de force et de travail, les mots de la langue la plus commune. Que fait Newton? Il prend le mot force qui est vraiment, qui traîne dans la langue commune, mais dont vous voyez que c'est un mot assez large, hein, c'est un mot qui a une acception très généralisée. Vous pouvez parler de la force nécessaire pour soulever un poids, vous pouvez en parler de façon beaucoup plus métaphorique de la force de conviction d'un discours, donc c'est un mot très très général. Et Newton va lui donner une acception très spécifique, puisqu'il va nous dire, pour moi, la force, ça désigne très particulièrement une grandeur physique qui a une direction et une valeur dans certaines unités. Et que c'est un sens tout à fait spécifique. Et que des forces peuvent s'ajouter suivant une règle géométrique, un parallélogramme. Le mot, vous le voyez, quitte assez largement l'ensemble de ces exceptions communes pour revêtir un sens beaucoup plus spécifique et beaucoup plus restreint. Encore faut-il dire que à ce niveau-là, pour ce mot-là, le rapport entre le sens général et le sens particulier reste assez proche pour qu'on n'ait pas le sentiment de commettre un abus de langage grave quand on utilise le mot force dans son acception physique. Les choses deviennent déjà un peu plus délicates quand vous considérez le mot travail. Alors le mot travail va avoir un sens très particulier chez Newton, puisque le mot travail va désigner une grandeur physique qui est le produit de la valeur de la force par la longueur du déplacement qu'elle produit sur tel ou tel mobile. Déjà, relativement technique comme exception. Et vous allez aboutir à des choses assez étranges, qui sont par exemple que, au sens où ce mot travail est utilisé là, eh bien, si vous prenez un sac de sable sur vos épaules, que vous le montez au cinquième étage, qui est dans l'escalier, et que vous le redescendez du cinquième étage, toujours en comptant sur vos épaules, vous n'avez effectué aucun travail. Vous voyez que là, entre le concept technique au sein de la physique, d'une part, et l'acception courante, se crée déjà un divorce, qui n'est pas sans poser encore aujourd'hui des problèmes pédagogiques, dans la mesure où ça n'est jamais affronté directement. Il est rare que les enseignants, les profs de physique, dans le secondaire, disent aux étudiants, aux élèves, on appelle ça le travail, c'est parce que ça a quelque chose à voir avec la notion de travail intuitive, mais ça s'en distingue, et il n'est pas étonnant d'arriver à des paradoxes si vous mélangez les termes. On fait trop peu, me semble-t-il, ce travail pédagogique d'élucidation des mots, d'expliquer comment ils sont nés, qui les a employés pour la première fois, pour quelles raisons, et que même s'il est sans doute, dans le cas de la mécanique, qui est une science qui a 3 siècles, il est vraisemblablement beaucoup trop tard pour vouloir réformer son vocabulaire, il n'est sans doute pas trop tard pour énoncer le fait qu'il y a effectivement un abus de langage. Et puis, vous avez d'autres termes qui vont arriver un petit peu plus tard, au cours du XVIIIe siècle, comme un terme dont je ne vais pas trop expliquer le sens technique, mais qui est le terme de quantité de mouvement. C'est un terme qui est encore aujourd'hui fait problème, parce qu'il est tellement vague. Vous pourriez appeler n'importe quoi quantité de mouvement, n'importe quel terme associé à la description théorique de la mécanique, par exemple le travail, on peut aussi bien l'appeler quantité de mouvement. Et ce terme qui s'est conservé jusqu'à aujourd'hui, je peux témoigner du fait que créer de gros obstacles pédagogiques, comme disait Bachelard, et qu'encore aujourd'hui, c'est un terme qui suscite l'incompréhension parce qu'il est trop flou et que on a l'impression qu'il veut dire quelque chose, mais on ne comprend pas très bien quoi et que ça ne permet pas clairement de s'en faire une idée. C'est effectivement dans la mesure où cette science qui naît au XVIIe et au XVIIIe émerge d'un savoir commun, se spécialise, se restreint, se spécifie, qu'elle le fait à partir de langue commune, sans avoir bien conscience explicite au début, qu'elle va donner au terme qu'elle emprunte des acceptions restreintes, particulières, qui ne vaudront que dans un contexte donné. Mais peu à peu, cette conscience naît, et en particulier au XVIIIe siècle, avec toute la réflexion qui accompagne le travail des philosophes du XVIIIe siècle, toute la réflexion sur la langue, va se faire jour cette idée que l'emploi inconsidéré, non critique de termes de la langue courante pose des problèmes. Et c'est là que va surgir, chez Condorcet en particulier, l'idée de la nécessité d'une langue bien faite. La science, dit-il, devrait parler une langue bien faite. Que serait une langue bien faite ? Ce serait une langue où chaque mot aurait une acception univoque. Ne voudrait dire qu'une chose et une seule, et ne serait pas embarrassé de toutes ces adhérences sémantiques, de toutes les références implicites auxquelles il peut renvoyer. Ce point de vue-là, le mot force n'appartiendrait pas à une langue bien faite, parce que dès que vous dites force, vous avez la tête pleine de références, d'allusions, que vous ne vous formulez peut-être pas, mais qui jouent un rôle fondamental dans les représentations mentales implicites et les intuitions justes ou fausses que vous allez vous en faire. Donc, les philosophes du XVIIIe, et en particulier les encyclopédistes, vont se donner cet objectif, vont militer pour une langue bien faite. Ce qui va avoir des effets extrêmement positifs, tout d'abord, par exemple, dans la réforme de la terminologie chimique par Lavoisier, Berthelet, Dutton, Bourgeau, qui vont, de toutes pièces, forger un vocabulaire pour désigner les corps chimiques, qui jusque-là était appelé par des termes extrêmement imagés qui venaient de très loin à travers toute l'alchimie médiévale, par parler de l'esprit de sel, par exemple. Alors, ils vont radicaliser leur proposition et forger une terminologie, enfin identifier des fonctions chimiques, des acides, des bases, voilà, et avoir un vocabulaire, terminologie, nomenclature, comme ils disent exactement, qui est beaucoup plus rigoureuse, spécifique, et répondant évidemment à cette idée de la langue bien faite, dans la mesure où là, si vous dites acide chlorhydrique, vous ne dites que acide chlorhydrique, aucun doute. Vous dites esprit de sel, vous voyez tout ce que ça convoque, le sel, alors le sel, c'est un mot qui a des adhérences sémantiques gigantesques, esprit aussi, donc dès que vous dites esprit de sel, tout un monde qui se déploie, très bon d'ailleurs, c'est un terme que j'adore. Mais par contre, si vous dites acide chlorhydrique, c'est clair et net, il n'y a pas de possibilité de vous tromper, c'est sans aucune ambiguïté. Donc ça représente effectivement un acquis, un atout, et ça permet aux sciences modernes d'avancer sérieusement. Cela dit, il faut bien voir que l'objectif de créer une langue bien faite est un objectif utopique. Que l'on puisse avoir des terminologies, des vocabulaires, des nomenclatures spécialisées et sans ambiguïté, c'est une chose. Et ce n'est pas parce que vous avez une nomenclature, des termes chimiques, c'est parce que vous avez une nomenclature de produits chimiques que vous avez une langue. Une langue, c'est bien autre chose. Une langue, c'est une structure syntaxique. Et le vocabulaire d'une langue comporte bien d'autres choses que les substantifs que vous allez utiliser pour parler des objets que vous traitez. Et il est tout à fait intéressant à cet égard de s'apercevoir que dans les textes scientifiques, y compris aujourd'hui les moins transparents, parce que vous allez tout de suite en les lisant vous heurter des termes bizarres, ces termes bizarres seront pour l'essentiel des substantifs et des adjectifs. Que vous trouverez très peu de verbes proprement spécialisé scientifique. Donc la création terminologique est surtout une création de substantifs et d'adjectifs en général. Mais tout le reste, c'est-à-dire ce qui fait la structure même de la langue, ce qui fait que les phrases ont un sens, c'est-à-dire les verbes, les enchaînements syntaxiques à coups de prépositions, etc., les qualificatifs adverbiaux, les conjonctions, toute cette structure syntaxique est parfaitement commune, c'est celle de la langue. Donc, je crois que c'est la première chose, conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'existe pas de langue scientifique particulière. Et que même le poncif qui consiste à dire les mathématiques sont la langue de la science, ou ce qui est certainement faux, ou les mathématiques sont la langue de la physique, ce qui pourrait être comme un peu plus juste, un peu moins fait, c'est faux dans la mesure où les mathématiques elles-mêmes parle la langue commune avec des mots spécialisés. Mais c'est la même langue, il n'existe qu'une seule langue. Alors, revenons au jargon, c'est-à-dire aux mots, aux vocables. Le 19e siècle va effectivement, dans cette foulée, la visée encyclopédiste, se forger une langue bien faite, qui est une visée beaucoup trop large, qui ne va pas aboutir, mais qui va engager un programme qui concrètement va être un programme beaucoup plus restreint, qui va être un programme de construction d'un vocabulaire particulier, et particulier en position de discipline, va effectivement se mettre à forger des mots. Et c'est le 19e siècle, pour l'essentiel, qui va être un merveilleux créateur de mots, qui va forger des vocables à tour de bras, en général formés sur des racines gréco-latines. C'est là que va s'appuyer sur le vieux fond linguistique, et que on va forger des mots, alors exemple, électromagnétisme. Si vous réfléchissez une seconde à l'étymologie, vous apercevrez qu'elle est extrêmement bizarre et que heureusement qu'elle ne joue pas grand rôle et qu'elle n'est pas entendue quand on parle, contrairement précisément au mot de langue commune comme force de travail. Parce que qu'est-ce que c'est que l'électricité? D'où vient ce mot? Il vient du grec électron, et électron en grec ça désigne l'ambre. L'ambre, pourquoi? Mais parce que l'ambre frottait, les Grecs l'avaient remarqué, à dire des petits bouts de papier, voilà un premier phénomène sur lequel va s'engager toute la construction de la théorie électrique. Aujourd'hui, l'électricité n'a plus rien à voir avec l'ambre, qui en est devenu un aspect parfaitement anecdotique et totalement secondaire. Donc heureusement que nous entendons ambre, on disait électricité. Magnétisme, pourquoi? Parce qu'il y a une ville d'Asie mineure autour de laquelle on trouve des pierres ferreuses un peu étranges qui ont la propriété d'attirer le fer. Magnétisme vient d'un lieu dit. Bon, dans d'autres cas, la dérivation linguistique, c'est-à-dire l'étymologie, est plus rationnelle. Par exemple, quand on dit thermodynamique, alors oui, le grec thermos, c'est la chaleur, et dynamis, c'est la force, la puissance, etc. Donc j'ai la dynamique associée à la chaleur, très bien, parfait. Et précisément, l'introduction de mots comme thermodynamique va permettre d'éliminer de vieux et longs malentendus sur le terme de chaleur. Vous savez par exemple que il a fallu assez longtemps pour qu'on distingue chaleur et température. Vous dites il fait chaud. Il fait chaud, ça veut dire la température est élevée. Oui, mais la physique va distinguer deux quantités extrêmement différentes. L'une qui est une échelle sur laquelle on va pouvoir dire effectivement il fait plus ou moins chaud, et l'autre qui va être la quantité de chaleur, qui est une quantité d'énergie. Vous voyez que tant qu'on en reste à des mots traditionnels, type chaleur, température, on est au risque de ces ambiguïtés. Donc la création de mots savants comme thermodynamique va avoir, au moins avoir pour mérite de spécifier, c'est toujours cette langue bien faite, la précise nomenclature bien faite, qui se précise. Alors, est-ce que pour autant, ce vocabulaire, il rend la connaissance ainsi énoncée opaque? Dans un premier temps, oui, mais tout dépend ensuite du rapport social qui va être entretenu à cette connaissance. Je vais vous donner deux exemples de mots qui, quand ils ont été introduits, étaient des mots savants strictement incompréhensibles, sauf pour vraiment les experts du domaine, et qui sont maintenant passés dans l'usage courant. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement inverse de celui que je décrivais, les mots qui sont les mots initialement spécialisés, qui reviennent dans la langue. Le mot énergie, quand il apparaît, est un mot pris dans le grec, pris dans la tradition philosophique grecque ancienne, energeia, c'est la capacité à fournir du travail. Ergeia, c'est le logos, c'est le travail. Energeia, c'est la capacité à fournir. Pourquoi ce mot est inventé de toutes pièces? Parce que il y a un grand débat qui tourne d'ailleurs autour du mot ambigu que je mentionnais tout à l'heure, quantité de mouvement, ce qui s'appelle toute la querelle des forces vives. Les gens se bagarrent pour savoir, je l'ai dit en termes techniques pour ceux qui se rappelleraient de leur apprentissage de la mécanique, il y a deux grandeurs intéressantes en mécanique, c'est l'une, c'est le produit de la masse par la vitesse, mv, et l'autre c'est m multiplié par le carré de la vitesse, mv2. Il y a une bagarre intense au début du 19e siècle pour savoir laquelle est la plus intéressante, laquelle est la plus importante, laquelle obéit à la loi de conservation. Donc l'on sera toutes les deux, mais ça dépend des circonstances. Et donc, le mot énergie va venir relayer le mot travail en lui donnant précisément un sens épuré, beaucoup plus spécifique, qui au début est un mot réservé aux spécialistes du domaine. Il se trouve simplement que l'industrialisation aidant les machines à vapeur, puis les moteurs électriques, petit à petit, n'étant plus seulement affaire de techniciens spécialisés dans les industries, mais venant dans l'usage commun, courant de chacun, n'oubliez jamais que jusqu'à à peu près, disons, le deuxième tiers, 1770, quelque chose comme ça, du 19e siècle, toutes les innovations techniques, importantes, sophistiquées, ne relèvent que du monde de la production. Les machines compliquées, depuis l'Antiquité jusque vers 1870, vous ne les trouvez que chez les artisans, plus tard dans les fabriques, vous ne les trouvez jamais chez les gens dans l'usage domestique. Vous pouvez prendre un intérieur parisien de 1850, il ressemble infiniment plus aux intérieurs des riches romains qu'à ceux de nos jours. On s'éclaire avec des flammes, pour le dire tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des lumières fixes, l'humanité, pendant un siècle et demi, avec eux, avec des éclairages mobiles, des flammes, des choses qui bougeaient, des ombres qui bougeaient. Bref, à partir du moment, et ça c'est tard dans le 19e siècle, où la technique rentre dans l'usage domestique, l'électricité arrive chez les gens, le gaz, l'électricité, le téléphone. Ils transportent évidemment avec eux leur vocabulaire qui, désormais, rentre dans l'usage courant. Et donc le mot énergie rentre dans l'usage courant. Alors évidemment, avec aussi des ambiguïtés, des adhérences et des complexités qui font qu'il redevient plus confus qu'il ne l'est dans l'usage proprement scientifique. Prenez un autre mot de ce genre-là, c'est le mot potentiel. Le mot potentiel, quand il apparaît au milieu du 19e siècle, très abstrait, très difficile à comprendre, il y a un passage formidable d'un texte de Langevin, aux alentours de 1920, où il explique comment dans sa jeunesse, quand il était au lycée, dans les classes terminales, sinon même les classes préparatoires, c'était le moment où on commençait pour la première fois à enseigner la notion du potentiel, et il dit que c'était un degré d'abstraction absolument terrible, et que le prof qui était le tout premier à leur enseigner ça, on se moquait de lui, on l'appelait le chevalier du potentiel. Et aujourd'hui, tout le monde a un sens au moins intuitif, même si pas théorique, de la notion du potentiel. C'est bien que si vous mettez vos doigts dans une prise de courant, ben ça vous secouera plus si c'est du 220 que si c'est de la basse tension ou si c'est simplement une pile. Donc un potentiel de 4 volts ou un potentiel de 110 ou 220 volts, ça a une signification concrète parce que ça correspond à des pratiques qui désormais sont des pratiques sociales, collectives, générales. Donc ça veut dire qu'un mot qui, à sa naissance, à son origine, est un mot extrêmement savant, faisant partie du jargon, peut, si le savoir, et plus précisément d'ailleurs la technique auquel il appartient, rentre dans l'usage courant, redevenir un mot de la langue commune. Donc que les passages entre langue commune et langue spécialisée sont complexes à examiner suivant les moments. C'est-à-dire qu'un mot qui arrive avec une spécification technique, à partir du moment où il rentre dans la courante, il devient lui-même ouvert à toutes les surcharges que la langue va lui imposer, parce qu'il va être sujet à métaphore. Donc il s'enrichit et il devient, pour le coup, plus large qu'il ne l'était au début. C'est le mouvement de la langue. Quelqu'un, j'ai de l'énergie à revendre, je pense que ça n'apparaît pas avant, je ne sais pas, de vue. Je ferai l'hypothèse, ça n'apparaît certainement pas avant l'extrême fin du 19e et probablement même plus tard dans le 20e. Énergie a été réempruntée par la science au vocabulaire philosophique grec et lui a donné un sens particulier. Potentiel, bon, ça existe en latin, potentialis, ça ne faisait plus du tout partie de la langue commune et ça a pris un sens très particulier dans la langue savante. Au stade où j'en suis, il faut que je vous lise un petit texte d'un poète qui est Léopardi, Giacomo Léopardi, qui met l'accent sur les limites, j'ai dit l'intérêt des terme bien choisi des vocabulaires spécifiques, Léopardi met l'accent sur leurs limites et les difficultés. Voilà ce que dit Léopardi, écrit en 1850. Il dit « Les mots, comme l'a observé Beccaria dans son traité du style, ne présentent pas la seule idée de l'objet signifié, mais aussi un nombre plus ou moins grand d'images incidentes. C'est la haute valeur de la langue que d'être ainsi faite de mots. Les vocables des sciences ne présentent que l'idée nue et limitée de tel ou tel objet. Ce sont bien des termes. Ce sont bien des termes car ils déterminent et définissent la chose de toutes parts. Plus une langue est riche de mots, plus elle se prête à la littérature et à la beauté, et plus elle abonde en termes, moins c'est le temps. Ce sont choses bien différentes que l'adéquation des mots et la nudité des termes. Et si la première confère efficacité et évidence au discours, la seconde ne lui apporte que l'aridité. Donc ce que fait Léopardi ici, c'est de mettre en garde contre un programme qui pousserait jusqu'au bout le fantasme d'une langue bien faite. Et à la limite, il dit une langue bien faite ne serait pas une langue. Elle ne serait pas une langue parce que précisément, si chacun des mots n'a qu'une acception bien délimitée, ce seront des termes, et vous les priverez de tout, comment dit-il, toutes les images incidentes qui les environnent, qui leur donnent ce nuage de signification, qui seul permet le mouvement de la pensée, qu'il soit explicite ou implicite. Explicite pour les poètes qui vont utiliser les mots précisément pour leur charge sémantique très large, mais implicite dans la langue courante, où nous utilisons tous, que nous voulions ou non, les mots, parce qu'ils veulent dire plus et autre chose que ce que nous croyons vouloir dire à un moment donné. Alors, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que la crainte de Léopardi est légitime, mais d'une certaine façon injustifiée, parce que la langue est plus forte que ça. Et que précisément, comme on vient de le voir avec l'exemple de l'énergie ou du potentiel, la langue est capable de reprendre son bien et de transformer un terme en mot. C'est là que les choses sont très ambiguës, parce que dans ce mouvement de va-et-vient, le mot énergie vient de la science, repasse dans la langue commune, acquiert une charge beaucoup plus large. Sommes-nous bien sûrs que quand aujourd'hui un physicien va employer le mot énergie dans le cadre de la physique, il ne l'entend que au sens de la physique et qu'il ne transporte pas les nouveaux sens qui sont apparus? Question ouverte, on sait peu de choses là-dessus en fait. On sait assez peu de choses sur le rapport effectif des scientifiques à leur terminologie. Je crois qu'il y a là des sujets de recherche ou d'enquête encore ouverts. Pour le sourire, je vous donne la phrase suivante de Léopard, qui montre d'ailleurs que ses craintes étaient quand même exagérées. Il dit, il écrit tout ça en italien, bien sûr, il dit, le grand péril que court aujourd'hui la langue française, n'oubliez pas qu'à l'époque où il écrit, 1820, c'est la France qui est dominante sur le plan scientifique. Le grand péril que court aujourd'hui la langue française est de devenir une langue toute mathématique et scientifique par excès d'abondance de termes pour toute chose et oubli des mots anciens. C'est d'ailleurs ce qui la rend facile et banale, car c'est désormais la langue la plus artificielle et géométrique qui soit. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, c'est que, je vais vous lire une phrase de Laplace, absolument contemporaine, hein, c'est dans l'essai philosophique sur la théorie des probabilités, où Laplace veut faire, son essai philosophique sur la théorie des probabilités, c'est donc pas un manuel mathématique, probabilité, il s'efforce de faire un essai philosophique, c'est le titre d'ailleurs, qui est en même temps un ouvrage de haute vulgarisation. Expliquer la théorie des probabilités bien au-delà du cercle des seuls mathématiciens, et pour ce faire, il essaye de n'écrire que le moins de formules mathématiques possibles. Mais comme il veut quand même aller assez loin dans ses énoncés, au lieu d'écrire une formule, il les écrit. Alors, voilà par exemple, les spécialistes reconnaîtront la formule de Gauss. Voilà ce que Laplace écrit. Et vous allez voir que, à une exception près, tous les mots qu'il emploie sont des mots de la langue commune. Et pourtant, je crois que cette phrase est incompréhensible, y compris pour moi, sauf si je sais quelle est la formule qui est dessus. Ah ben oui, bien sûr. Il dit, la probabilité des erreurs que chaque élément laisse encore à craindre est proportionnelle au nombre dont le logarithme est l'unité, élevé à une puissance égale au carré de l'erreur, pris en moins, et multiplié par un coefficient constant qui peut être considéré comme le module de la probabilité des erreurs. Phrase absolument française, grammaticalement tout à fait correcte, à part le mot logarithme, oui, c'est ça. Bon, c'est proportionnel, puissance égale, tout ça, carré de l'erreur pris en moins, parce qu'il ne veut pas dire négatif, il a dit carré de l'erreur pris en moins. Bon, alors, donc vous voyez bien que là, l'idée que il ne faut pas jargonner, il ne faut pas employer de mots spécialisés, utilisons les mots de tout le monde, bah, ça ne marche pas, tout simplement, ça ne marche pas. Et que, à la limite, il vaut mieux écrire la formule, on sera compris peut-être de moins de gens, mais ils la comprendront, et se donner les moyens de l'expliquer. Je vous signale que cette phrase qui fait 5 lignes, qui doit faire quelque chose comme 300 ou 400 lettres, quand vous écrivez la formule, ça fait moins d'une dizaine de signes. Mais ça, c'est une autre... Je referme ici, parce que là, ça nous engage sur une autre chose, ça serait la question du symbolisme mathématique et de son rôle, une question qui prolongerait la discussion sur le jargon et le vocabulaire, mais c'est une autre question. Alors, je voudrais en arriver à la situation actuelle, ou plus précisément, celle qui a été celle du XXe siècle, pour l'essentiel, et qui est encore celle de ce début de XXIe siècle, où on assistait à un renversement. Et que, pour une série de raisons pas trop difficiles à comprendre, c'est-à-dire le fait que l'impact technique et donc social de la science devenait de plus en plus évident, puissant, qu'on n'était plus dans la situation du XIXe siècle, où d'une part il y avait des scientifiques qui travaillaient dans un laboratoire, et peut-être que, éventuellement, au bout d'un certain temps, les découvertes sortaient des laboratoires et se matérialisaient dans des objets techniques. Le XXe siècle, en tout cas dans sa seconde moitié, montre un couplage entre le savoir fondamental qui est dans les laboratoires et sa mise en œuvre technique voire industrielle, qui est totalement inédit dans toute l'histoire de l'humanité. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, je crois qu'il est totalement illusoire de vouloir distinguer ce qu'on pourrait appeler science fondamentale et science appliquée. Distinction qui valait encore peut-être dans la première moitié du XXe siècle, mais qui ne vaut certainement plus maintenant, dans la mesure même où la grande majorité de la production scientifique, le mot que j'ai prononcé fait partie du jargon pour le coup des technocrates, est orientée par l'aval. C'est ce qu'on en attend qui gouverne les attributions de crédit, le choix des priorités de recherche, la définition des programmes. Chose qui était totalement inédite. Les gens qui ont travaillé sur la, par exemple sur l'électromagnétisme, c'était pas pour fabriquer des téléphones ou des télévisions. le début même de la physique nucléaire des années 1920, le plus grand nombre, des gens comme Marie Curie, comme Robert Fort, disent, si vous croyez que ça servira à quoi que ce soit, de sitôt, vous vous trompez complètement. Elle ne serait pas été perdue par tout le monde, évidemment, et toute l'histoire de la science dans la deuxième moitié du XXe siècle est l'histoire de son couplage de plus en plus puissant avec la technique, et je dirais, pour ma part, je dis, du recouvrement de la science par la technique. Cette grosse lueur navale sur sa propre science. Sont dans un monde aujourd'hui où il conviendrait de parler de technoscience. Plus possible, sérieusement, théoriquement, abstraitement, de distinguer là. Alors, ce couplage a pour effet que le discours social sur la science est désormais un passage obligé. C'est-à-dire que ça n'est plus comme ça l'a été pendant une bonne partie du XIXe siècle, parce qu'il y avait un projet politique qui disait il faut éduquer le peuple, lui apporter le savoir, et donc nous allons faire un effort pour, et essayer d'être aussi transparent. Là non, aujourd'hui la nécessité est d'une toute autre nature, c'est que la science étant devenue une activité sociale coûteuse, risquée, qui prête à, heureusement d'ailleurs, à débat, il ne peut pas ne pas y avoir un discours social permanent à son sujet. Et que les scientifiques éprouvent, évidemment, de façon aiguë, ce sentiment que ce qu'ils disent, s'ils transmettent directement leur savoir tel qu'il était formulé jusque-là, ne sera pas compris. Et ils croient s'en tirer en forgeant des vocabulaires, donc croient-ils, ils seront compris beaucoup plus immédiatement. De sorte qu'on assiste, dans la seconde moitié du XXe siècle, à une situation inverse à celle du XIXe, qui produisait des mots savants. Au moins, on comprenait qu'ils étaient difficiles à comprendre, si j'ose dire. On savait qu'on ne comprenait pas, ce qui est un grand mérite. Il vaut mieux savoir qu'on ne comprend pas que d'avoir l'illusion qu'on comprend si on n'a pas compris. Eh bien, dans la deuxième moitié du XXe siècle, vous assistez, je parle essentiellement de ce que je connais moi, c'est-à-dire de la physique, à une floraison de vocables qui s'apparentent beaucoup plus à des termes de type publicitaire ou à des stratégies de communication, comme on dit aujourd'hui, qu'à des programmes épistémologiquement clairs de production de mots. Alors, je peux vous donner quelques exemples, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Prenez un mot comme Big Bang, par exemple. Exemple formidable, parce que c'est une horreur conceptuelle absolue. Au point même, et c'est intéressant, que l'origine du mot, qu'on vient de le savoir, terme, je ne sais pas comment je veux dire, vocable, a été créé par un adversaire de la théorie. Mais alors, ce qui est tout à fait intéressant, et on voit à l'œuvre les mécanismes modernes, typiquement modernes de la communication, un mot initialement péjoratif est ressaisi et retransformé en son inverse et devient un mot positivé, moderne, à la mode, etc. C'est un phénomène classique qu'on a vu mille fois dans les décennies récentes, par exemple dans la mode. Prenez des mots comme punk, par exemple, anglo-saxon, c'est un mot extrêmement péjoratif, voire insultant, et qui devient une étiquette brandie fièrement. Punk, grunge. Alors évidemment, une formule qui d'abord est phonique en anglais, bug, cette répétition, l'allitération, c'est facile à percevoir, mais c'est un mot qui va à l'encontre même du concept sous-jacent. Et là, on peut montrer que l'écho intérieur du mot dans la communauté scientifique a des effets d'occultation. Et que les physiciens ou astrophysiciens eux-mêmes sont inhibés dans l'explicitation de la signification du concept par ce mauvais choix terminologique. Peut-être moins dramatique, mais aussi ridicule, c'est le terme de quark. Vous savez qu'il y a des petites particules, parse-t-on, à l'intérieur des noyaux atomiques qu'on appelait quark. Le quark ne veut strictement rien dire, sauf que, là aussi, son origine est absolument dérisoire. Et c'est intéressant de voir précisément ce caractère dérisoire. C'est que le mot quark vient de ceci, que l'homme qui imagine, ils sont plusieurs, c'est l'astral plus connu, qui imagine la notion de quark, c'est un physicien américain qui s'appelle Gell-Mann. Gell-Mann propose l'idée qu'il y a donc à l'intérieur des noyaux atomiques ces petites particules qui vont toujours par trois. Une triplicité constitutive de notions de quark. Alors il cherche à leur donner un nom. Effectivement, quelqu'un qui avait eu un peu la même idée à la même époque avait proposé d'appeler ces particules des as. Mais c'était très mal choisi parce que les as ils vont par quatre et pas par trois. Alors Gell-Mann cherche quelque chose qui va par trois. Et il ne trouve rien d'autre qu'une phrase totalement inconnue ou méconnue de Joyce, dans Fiddler's Wake, où il est question de three
3.
Three quarks for Mr. Mark. Chez Joyce, c'est juste une allitération. Il fait rimer Mark, le nom du personnage, avec quark. Parce que dans le contexte de la phrase où il est, qu'est-ce que c'est que des quarks? C'est un fromage allemand. Que vous pouvez acheter, vous allez en Allemagne dans les supermarchés, et vous trouvez du quark. C'est vraiment du fromage blanc, c'est rien d'autre. Bon, et la phrase de Joyce, elle vient à un moment où son héros, qui s'appelle Mark, mange du fromage, ce genre-là, donc il allait chercher un fromage allemand pour baptiser des parties élémentaires, ce fait qu'elles vont par trois, et une phrase de Joyce. Donc c'est là vraiment, on est dans la fausse culture, c'est-à-dire que Gell-Mann, effectivement, est un homme assez cultivé, et il connaît cette Joyce. Très bien, bravo, mais ça ne justifie pas, à mon avis, cet abus absolument incroyable qui consiste à aller chercher ce mot-là. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Il y en a qui, eux, ne sont pas restés en anglais, mais un terme comme celui de trou noir, par exemple, est susceptible de toutes les confusions. C'est ni un trou ni noir. Ne parlons pas du terme de chaos, la théorie du chaos, qui est extrêmement à la mode, alors qu'évidemment, quelque chose à voir avec l'idée générique de désordre. Bon, mais quelque chose de très spécifique, d'une certaine façon. Le chaos, c'est pas n'importe quel type de désordre, c'est un désordre très particulier, très ordonné en un certain sens. Et on voit là, alors là, par comparaison avec les stratégies anciennes, justement, parce que le chaos était déjà apparu sous une forme déguisée en physique, quand à la fin du 18e siècle, les physiciens découvrent un état de la matière, qui est l'état gazeux. C'est l'époque où on comprend que la vapeur d'eau, c'est un gaz, qu'il va y avoir le gaz carbonique. Mais au début, ça s'appelle air, et on met des adjectifs. Par exemple, le gaz carbonique, pendant longtemps, il s'appelle air déphlogistique. C'est un air particulier. Et puis, Von Helmont se rend compte qu'en fait, c'est une catégorie générique, de même que tout ce qui est, comme ça dure, on appelle ça des solides, tout ce qui coule, on appelle ça des liquides. Il veut forger un mot pour désigner cet état de la matière qui est impalpable, sans forme, sans consistance, etc. Et il invente le mot gaz, il l'invente, plus précisément, il le forge à partir du chaos grec. C'est le chaos, mais alors là, avec une dérivation tout à fait étrange, le chaos grec est écrit avec un ki, qui dans certaines prononciations devient guttural, chaos. Et Von Helmont appelle ça des chas, sauf que comme il est hollandais, une gutturale, ça s'écrit G. Et ce G redevient ensuite un G. Donc le gaz n'est jamais qu'une occurrence du chaos, mais précisément ça c'est très bien, parce que le mot gaz est donc, vous voyez, un terme créé de toutes pièces par une dérivation dont tout le monde a oublié l'étymologie, et c'est pas grave, parce que c'est un mot qui s'est imposé, parce qu'il désigne spécifiquement un certain nombre de... Donc, autant gaz, ça marche, autant reprendre le mot de chaos tel quel, on aurait pu repartir de cette base et tenter de le déformer, de forger quelque chose sur cette racine-là, de forger un autre mot, autant ça ne fonctionne pas. Je voudrais quand même conclure en généralisant mon oui, mais, et en disant ceci, c'est que, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que, bon d'accord, c'est normal qu'on dise des mots savants, difficiles à comprendre, quelquefois il vaut mieux, je le répète, un mot difficile à comprendre qu'un mot apparemment facile à comprendre, sur lequel en fait il va y avoir des malentendus considérables, une fois qu'on a dit ça, il n'en reste pas moins que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on s'en tient là ? C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que la science soit seule à parler d'elle-même, que tout texte scientifique, parascientifique, ou parlant de la science, soit un texte écrit par des scientifiques dans ce jargon inévitable. Et la réponse serait non. Nous avons le plus grand besoin de textes qui nous parlent de la science, qui reprennent des idées ou des pratiques scientifiques, mais qui soient écrits dans une autre langue. Encore faut-il, pour le coup, avoir des capacités d'écriture, encore faut-il faire appel ici aux écrivains en tant que tels. Et c'est pour ça que je voudrais conclure en vous lisant un petit texte de Victor Hugo. Alors on pourrait consacrer toute une séance ici, je crois, au rapport de Victor Hugo avec la science. Très brièvement, je vous dis ceci, que Hugo, quand même, comme il parcourt tout le siècle qui le recouvre d'emblée, il aura tout dit. Il tout dit magnifiquement. Le premier Hugo, qui est un Hugo romantique, est évidemment anti-scientifique. Comme Lamartine, comme Blake, comme tous ces gens-là, la science s'en méfie parce qu'elle est en train de désenchanter le monde. Juste trois passages d'un texte de jeunesse de 1831 où il se rappelle de son éducation et il écrit « J'étais alors en proie à la mathématique. Pauvre oiseau qui heurtait du crâne mes barreaux, on me livrait tout vif aux chiffres noirs bourreaux. On me tordait depuis les ailes jusqu'au bec sur l'affreux chevalet des X massifs. Bon, alors, cela dit, le siècle avançant, Hugo va changer, comme vous savez, royaliste, réactionnaire dans sa jeunesse, il va devenir au contraire un démocrate, républicain, progressiste, etc. Et par rapport à la science en particulier, l'idée de la science comme élément du progrès va s'imposer à lui, en particulier à la suite d'une relation très étroite avec Arago. Si bien que Hugo va se créer une conception du progrès scientifique, d'ailleurs très en avance sur le positivisme de son temps. Il y a un texte de Hugo que je... C'est pas celui que je vais vous lire, dont je recommande vraiment vivement la lecture, qui s'appelle tout simplement L'art et la science, qui se trouve être le chapitre 3 du William Shakespeare. En deux mots, c'est simple. Le William Shakespeare, c'est une méditation de Hugo, par-delà Shakespeare, sur le génie en général. Et la question du génie, Hugo se la pose, et la pose à ses collègues en génie, parce qu'il n'y a aucun doute. Donc ils discutent d'égal à égal, sur les cimes, ils regardent autour de lui, et qu'est-ce qui dépasse à la même hauteur que lui? Il y a Eschyle, il y a Beethoven, il y a Michel-Ange, donc ils sont 12 comme par hasard. Mais il n'y a aucun scientifique dans les génies. Et donc il se pose la question. Il dit, mais je ne vois pas de scientifique, je ne vois pas de scientifique. Et alors il se pose la question, et il développe toute une argumentation sur le progrès, le caractère qui est très juste, qui n'est pas radicalement nouveau ni original, mais qu'il dit avec une force inégalée. Il explique qu'une grande œuvre littéraire est à tout jamais une grande œuvre littéraire. Il va jouer le dit proie, chaque ère, chaque siècle lui redonnera une nouvelle signification, c'est pour ça qu'on va reconnaître que c'est un génie. Alors qu'une grande œuvre scientifique, sa vocation, c'est d'être précisément dépassée par celle qui la suivront. Sauf que ce qui est très fort chez Hugo, c'est que cette idée du dépassement, il la voit d'une façon extrêmement riche, pas du tout de façon cumulative et linéaire comme son époque en général le voit. Voit un mouvement beaucoup plus intense de négation. Il écrit dans ce texte-là sur l'art et la science, il dit « La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvé. C'est elle-même. Tout remue en elle, tout change, tout fait peau neuve. Cette agitation est superbe. La science est inquiète autour de l'homme. Elle a ses raisons. Oh, l'admirable merveille que ce monceau fourmillant de rêves engendrant le réel. » Bon, alors, en fait, le texte que je voulais vous lire, c'est un autre texte qui s'appelle « Le promontoire du songe », qui est publié en 1864, mais qui est en fait un morceau laissé sur le côté de tout le matériau qu'il a accumulé pour les misérables. Le promontoire du songe va être une autre grande méditation sur le génie humain. Ce qu'il raconte, une visite qu'il a faite 30 ans auparavant à Arago, à l'Observatoire de Paris. Et il y a dans ce texte une description de ce que c'est que de regarder dans une lunette que je trouve absolument admirable dans la force de la description et admirable dans fond épistémologie. Je me rappelle qu'un soir d'été, il y a longtemps de cela, en 1834, j'allais à l'observatoire. Je parle de Paris, où j'étais alors. J'entrais. La nuit était claire, l'air pur, le ciel serein, la lune à son croissant. On distinguait à l'œil nu la rondeur obscure modelée, la lueur cendrée. Arago était chez lui, il me fit monter sur la plateforme. Il y avait là une lunette qui grossissait 400 fois. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'un grossissement de 400 fois, représentez-vous le bougeoir que vous tenez à la main, haut comme les tours de Notre-Dame. Arago disposa la lunette et me dit, regarde, je regarde. Juste un mouvement de désappointement. Une espèce de trou dans l'obscur. Voilà ce que j'avais devant les yeux. J'étais comme un homme à qui l'on dirait « Regardez » et qui verrait l'intérieur d'une bouteille à l'encre. Ma prunelle n'eut d'autre perception que quelque chose comme une brusque arrivée de ténèbres. Toute ma sensation fut celle que donne à l'œil, dans une nuit profonde, la plénitude du noir. « Je ne vois rien, dis-je. » Arago répondit, « Vous voyez la lune ?» J'insistais, « Je ne vois rien. » Arago reprit, « Regardez !» Un instant après, Arago poursuivit, « Vous venez de faire un voyage. Quel voyage ! Tout à l'heure, comme tous les habitants de la Terre, vous étiez à 90 000 lieues de la Lune. Eh bien, vous êtes maintenant à 225 lieues. De la Lune ? Oui. C'était là, en effet, le résultat du grossissement de 400 fois. J'avais, grâce à la lunette, fait, sans m'en douter, cette enjambée. 99 775 lieues en une seconde. Du reste, cet effrayant et subit rapprochement de la planète ne me faisait aucun effet. Le champ du télescope était trop étroit pour embrasser la planète entière, la sphère ne s'y dessinait pas, et ce que j'en voyais, si j'en voyais quelque chose, n'était qu'un segment obscur. Arago, comme il me l'expliqua ensuite, avait dirigé le télescope vers un point de la Lune qui n'était pas encore éclairé. Je repris, « Je ne vois rien. » « Regardez, dit Arago. Je suivis l'exemple de Dante vis-à-vis de Virgile. J'obéis. Peu à peu, ma rétine fit ce qu'elle avait à faire. Les obscurs mouvements de machine nécessaires s'opérèrent dans ma prunelle. Ma pupille se dilata. Mon œil s'habitua, comme on dit, et cette noirceur que je regardais commença à blêmir. Je distinguais quoi ? Impossible de le dire. C'était trouble, fugace, impalpable à l'œil, pour ainsi parler. Si rien avait une forme, ce serait cela. Puis la visibilité augmenta, on ne sait quelles arborescences se ramifièrent. Il se fit des compartiments dans cette lividité, le pâle à côté du noir. De vagues fils insaisissables marquèrent dans ce que j'avais sous les yeux des régions et des zones, comme si on voyait des frontières dans un rêve. Pourtant, tout demeurait indistinct. Il n'y avait d'autre différence que du blême au sombre. Confusion dans le détail, diffusion dans l'ensemble. C'était toute la quantité de contours et de reliefs qui peut s'ébaucher dans de la nuit. L'effet de profondeur et de perte du réel était terrible. Cependant, le réel était là. Je touchais les plis de mon vêtement. J'étais, moi. Eh bien, cela aussi était. Ce songe était une terre. Probablement, on, qui, marchait dessus. On allait et venait dans cette chimère. Ce centre conjectural d'une création différente de la nôtre était un récipient de vie. On y naissait, on y mourait peut-être. Cette vision était un lieu pour lequel nous étions le rêve. Ces hypothèses compliquant une sensation, ces ébauches de la pensée essayées hors du connu, faisaient un chaos dans mon cerveau. Cette impression, c'est l'inexplicable. Qui ne l'a pas éprouvé ne saurait s'en rendre compte. Je passe un passage de temps. Tout à coup, j'eus un soubresaut, un éclair flamboya. Ce fut merveilleux et formidable. Je fermai les yeux d'éblouissement. Je venais de voir le soleil se lever dans la lune. L'éclair fit une rencontre. Quelque chose comme une cime, peut-être, s'y heurta. Une sorte de serpent de feu se dessina dans cette noirceur, se roula en cercle et resta immobile. C'était un cratère qui apparaissait. À quelques distances, un autre éclair, une autre couleur de lumière, un autre cercle, deuxième cratère. Le premier est le volcan Messala, me dit Arago. Le deuxième est le Promontorium Somnus. Successivement resplendirent comme les couronnes de flammes que porte l'ombre, comme les margelles de braise du puits de l'abîme, le mont Proclus, le mont Cléomède, le mont Pétuvius, ses Vésuves et ses Etna de là-haut, puis une pourpre tumultueuse courut au plus noir de ce prodigieux horizon, une dentelure de charbons ardents se hérissa et se fixa, ne remuant plus, terrible. C'est une chaîne d'Alpes lunaires, me dit Arago. Cela existait magnifiquement. Là aussi, la grande parole venait d'être dite, fiat lux. La lumière avait fait de toute cette ombre soudain vivante quelque chose comme un masque qui devient visage. Partout l'or, l'écarlate, les avalanches de rubis, un ruissellement de flammes, on eût dit que l'aurore avait brusquement mis le feu à ce monde de ténèbres. Cette vision est un de mes profonds souvenirs. Pas de plus mystérieux spectacle que cette irruption de l'aube dans un univers couvert d'obscurité. C'est le droit à la vie s'affirmant dans des proportions sublimes, c'est le réveil démesuré. Il semble qu'on assiste au paiement d'une dette de l'infini. C'est la prise de possession de la lumière. Quelque chose de pareil arrive parfois à des génies. Bon, alors, indépendamment de sa discussion, enfin, sa méditation qui va suivre sur le génie, sa éblouissement qu'on a tout d'un coup on voit le génie, alors, je trouve que dans cette simple description de ce qu'est une observation télescopique, il y a quelque chose d'absolument magique, il y a là quelque chose de, d'extrêmement intense, dans la mesure où Hugo, c'est peut-être la, la force première de ce texte, dit ce que personne ne dit jamais, c'est-à-dire que quand on regarde dans une lettre, on ne voit rien. Pas seulement parce qu'il regarde du noir, mais parce qu'il faut apprendre à voir. Et donc là, il y a une leçon, l'observation scientifique n'est jamais immédiate. Elle ne vous livre jamais aucune donnée telle qu'elle. Elle exige toujours un travail d'interprétation, d'accoutumance, d'apprentissage de la vision. Et ça, c'est quelque chose qui échappe à la plupart des textes scientifiques eux-mêmes, parce qu'ils sont comme si c'était déjà fait. Et donc dans cette narration de ce qui est une expérience scientifique, je trouve, et c'est là que, oui bon d'accord, on ne peut pas se priver du jargon, mais on a besoin d'autre chose. La science, c'est difficile, si ça ne l'était pas, ben, ça ne serait pas ce qu'elle est. Mais elle ne l'est ni plus ni moins que d'autres activités. Je trouve que l'exemple de la musique est parfaitement choisi. Et soulève la question, effectivement, du rapport amateur. Moi, personnellement, je déplore profondément de ne savoir pas lire une partition. Et donc, je me sens assez équilé à cet égard. J'ai quand même une certaine capacité de trouver bonheur à l'écoute. Mais je ne m'indigne pas du fait que les musiciens écrivent des partitions que je ne comprends pas.